affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Nous fêtons cette semaine les 400 ans de Molière en compagnie d'une femme de théâtre qui le fréquente depuis longtemps. Muriel Mayette est entrée très jeune à la Comédie Française, dont elle a été l'administratrice générale de 2006 à 2014. Elle a donc dû composer avec le fantôme du patron, comme on l'appelle là-bas, dont elle a joué de nombreuses pièces. Muriel Mayette est membre de l'Académie des Beaux-Arts. Elle dirige aujourd'hui le Théâtre National de Nice. Nous sommes donc impatients de l'entendre parler du dramaturge et du chef de troupe. Bonjour à vous.
Bonjour.
Muriel Mayette, pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec Molière ? Est-ce que c'était au collège, comme pour beaucoup d'entre nous ?
Alors, au collège, je ne saurais dire, mais j'ai commencé, moi, très jeune, puisque je suis rentrée au conservatoire de Versailles à 14 ans. Et là, on jouait beaucoup de scènes de Molière, puisqu'à l'époque, on travaillait scène par scène seulement. Donc, on présentait des scènes. Et je crois que le premier rapport que j'ai eu avec son œuvre, en tant qu'interprète en tout cas, je jouais Zerbinette dans Les Fourberies de Scapin. Parce que Zerbinette doit avoir un moment de fou rire. Et il propose d'ailleurs plusieurs fois, dans plusieurs pièces, notamment dans Le Bourgeois Gentilhomme aussi avec Nicole, le fou rire. Et j'étais assez douée pour rire non-stop, quoi, disons.
C'était à Versailles, ce n'est peut-être pas un hasard. Et puis ensuite, vous avez rejoint la Comédie Française à l'âge de 20 ans à peu près. C'est la maison de Molière, le fondateur de la troupe. Est-ce que dès le début, vous avez senti sa présence dans ces lieux ?
Sa présence, elle est partout. Pourquoi ? Parce que c'est l'homme idéal de troupe. Par ce qu'il représente, par son œuvre, par l'amplitude des caractères qu'il a imposés, proposés au répertoire français. Et surtout parce que, grâce à lui, la Comédie Française, elle a été créée en 1680, donc il était mort déjà depuis 7 ans. Mais c'est la réunion de 3 troupes différentes, sous l'égide de Simul et Singulis, c'est-à-dire être ensemble et rester soi-même, donc amener sa différence dans l'ensemble. Et Molière incarne parfaitement l'homme de troupe qui écrit pour les uns pour les autres, qui lui-même est interprète et qui a une capacité à parler au public, puisque son œuvre, elle a traversé les siècles. C'est donc qu'il arrive à s'adresser à l'humain au travers des années. Et ça, c'est quand même le modèle absolu.
Cet esprit de troupe demeure. Il y a d'ailleurs, là, nous fêtons les 400 ans de la naissance de Molière. Mais chaque année, cet anniversaire est fêté à la Comédie Française.
Oui, c'est l'occasion, en fait, de réunir sur le même plateau tous les acteurs de la troupe. Et c'est très, très, très émouvant.
Comment ça se passe ?
En fait, chaque année, c'est mis en scène de façon différente, avec des lectures plus ou moins différentes. On s'est beaucoup appuyé sur les mêmes textes, moi, pendant les années où j'y étais. Mais en fait, c'est essentiellement de voir l'ensemble de la troupe. Alors, en général, chacun dit une phrase tirée du répertoire de Molière. Mais voir une troupe entière, c'est magique, parce que tu vois 60 personnalités différentes. Moi, quand je suis rentrée à la Comédie Française, j'étais dans le dernier rang, parce qu'on était les derniers entrants, les plus jeunes. Et on se disait que jamais on atteindrait le premier rang. Au premier rang, il y avait des monstres sacrés. Il y avait Jean-Luc Boutet, François Seignet, Jacques Serres, Christine Fersen, enfin ils avaient tous des personnalités énormes. Et donc on se disait que jamais on atteindrait ce premier rang. Et l'année où j'ai atteint le premier rang, ça fait un drôle d'effet.
Nous allons peut-être maintenant parler du répertoire de Molière que vous avez joué. Vous avez joué pour L'Avare, Le Malade Imaginaire, Georges Dandin, les femmes savantes, le bourgeois gentilhomme, le misanthrope. Est-ce qu'au fil des ans, vous, votre propre rapport à Molière et à ses textes a évolué en le fréquentant ?
Alors, c'est très différent d'un point de vue d'actrice. D'un point de vue d'actrice, je crois que je l'aime de plus en plus parce que je comprends la profondeur de son écriture. Et comme metteur en scène, en fait, je suis très intimidée par cet auteur. Je ne l'ai jamais vraiment mis en scène.
Vous n'y avez pas touché comme metteur en scène ?
Non, parce que je vais le faire. Un jour, je vais le faire. Dans pas longtemps, sans doute. Mais d'abord, j'ai eu la chance de travailler avec des grands metteurs en scène qui le connaissaient dans leur chair, comme Catherine Yeigel, comme Jacques Lassalle. Et donc, je reste très intimidée par son écriture. Elle est complète. Après, comme interprète, évidemment, c'est différent parce que on est boulimique, qu'on a envie de tout jouer. Et sa prose est difficile à dire. Mais par exemple, Toinette, dans Le Malade Imaginaire, c'est inépuisable de bonheur parce que ça propose des jeux à des endroits très très différents. Et dans le rapport humain avec le malade, avec Argan. Et dans le rapport théâtral avec le jeu sur le poumon, sur le masque qu'elle prend. Enfin, ce sont des terrains de jeu pour des acteurs extraordinaires. Les rôles de femmes sont difficiles la plupart du temps parce que même si elles sont toutes combattantes, qu'elles cherchent à se libérer de la contrainte paternelle ou de la contrainte du mari, ce ne sont pas des femmes libres. On est au XVIIe siècle. Elles aspirent toutes à la liberté. Donc ce sont des battantes. Mais souvent pour les jeunes premières, et il en est de même pour les jeunes premiers qui sont peut-être encore plus difficiles à jouer parce que moins combatifs d'ailleurs. Mais pour les jeunes premières, elles cherchent toutes à se libérer, mais elles ont deux scènes pour le faire. Alors ce ne sont pas du tout des personnages mièvres, mais elles n'ont pas beaucoup de textes pour s'exprimer. Donc c'est très difficile à jouer.
Par exemple, Lucille que vous avez joué ?
Oui, par exemple, Lucille, dans Le Bourgeois. Ce sont des personnages merveilleux qui veulent lutter contre la puissance paternelle et contre l'obligation d'obéir et donc de ne pas avoir voix au chapitre sur leur propre destin. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits pour pouvoir creuser le personnage. Et donc, on aurait une tendance à en faire des personnages inintéressants. Mais c'est le contraire. Seulement, il faut y aller très vite, très profondément pour que le personnage puisse avoir de la chair, puisse être entendu en tout cas, être repéré. Ce sont des rôles très difficiles, surtout pour des jeunes acteurs, puisqu'on les confie aux jeunes acteurs. Alors que les personnages, évidemment, comme Toinette ou les figures de femmes, sont, j'ai envie de dire, plus étoffées. Donc, ou les nounous, les dorines.
Les servantes.
Les servantes, les voilà. Les maternelles, les Nicole, les généreuses. On a, disons, en gros, trois figures. On a les jeunes premières qui luttent contre la puissance paternelle. On a les nounous qui essayent d'équilibrer la famille et qui, au fond, ont un rôle, on sent, autour d'ailleurs du repas, hein, de la cuisine, un rôle d'équilibre et d'amour très fort qui est souvent peu donné par la figure de femme parce que la mère, en général, est absente ou absorbée par d'autres aspirations comme dans les femmes savantes. Et donc, c'est Nicole qui compense le rapport d'amour familial. Et sinon, ce sont des femmes qui ont choisi d'épouser des vieux pour atteindre une liberté et qui donc exigent, comme dans Le Malade Imaginaire, à un moment donné, de dire « Attends, je t'ai donné ma jeunesse. Si tu meurs, je veux ma liberté. » Et on peut le comprendre aujourd'hui.
Il y a de la subversion chez Molière ?
Non, je ne dirais pas ça. Il y a un grand féministe, d'une certaine façon, où la femme, elle n'a pas 36 000 solutions pour acquérir une liberté. elle est où la fille qui est vendue, donc on est du côté de la rue, de la prostituée, de la femme qui se débrouille. Ou bien on est la jeune première et on s'accroche à celui qui épousera notre parti pour pouvoir choisir l'amoureux de notre cœur. En tout cas, la vie que on choisit. Et puis sinon, il y a la femme qui a décidé que sa liberté passerait par les années de jeunesse dédiées à un bribon, à un vieux. Et il y a beaucoup ce thème hein, dans le mariage forcé en est un. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut comprendre que ces femmes aient fait ce choix parce qu'elles n'en avaient pas 36 devant elles. Et de ce point de vue-là, il est assez féministe.
Les femmes sont toujours intelligentes chez Molière.
Oui, c'est vrai. Je ne l'aurais jamais défini comme ça, mais oui, c'est vrai. Elles font avec ce qu'elles ont. Et donc, elles rusent. Mais elles rusent par nécessité. Pas du tout par perversité. Jamais. C'est pas du tout un auteur pervers, Molière. Et quand j'entends que parfois, il y a cette polémique qui revient, est-ce que Molière aurait écrit tout Molière ? Quand on l'interprète, c'est absurde de poser cette question-là, parce que c'est la même écriture, c'est le même rapport au monde. Et il aime profondément les humains.
Et justement, cette écriture, vous dites qu'elle est difficile à dire. Comment est-ce que vous la travaillez ? Comment est-ce que vous vous appropriez ce matériau ?
Elle demande beaucoup d'articulation. Elle demande une gymnastique d'articulation réelle, parce que c'est pas du tout une prose fluide. Je me suis cassé la tête contre la carne d'un volet. Enfin, c'est pas
ça
simple.
Heurte.
C'est plus d'une certaine façon plus facile de jouer en alexandrin dans le Misanthrope, parce que l'alexandrin est la musique de la langue française. Mais la prose de Molière n'est pas facile à dire. Elle menace de nous faire bafouiller. Donc il faut beaucoup la mâcher.
Si vous deviez la comparer à une musique, qu'est-ce que ce serait ?
Ah, je dirais, tiens, quelle belle question. Une musique de saltimbanque. C'est une prose dans laquelle on a des mots simples, mais dans le collage des mots, il n'y a pas de littérature. C'est une langue populaire, en fait. Et alors, évidemment, il y a des formules qu'on vieillit, mais c'est pas sophistiqué comme langue. Et donc, spontanément, on peut le dire, mais enchaîner avec virtuosité, ça n'est pas si facile.
Est-ce que vous, il y a une réplique ou une tirade que vous affectionnez particulièrement ?
Oh, il y en a mille, je dirais. Et c'est un des bonheurs de l'hommage à Molière à la Comédie française, c'est d'entendre toutes ces répliques. Mais il faut vivre pour manger et non pas manger pour vivre. Ça reste un chef-d'œuvre. Enfin, j'y pense très souvent. Est-ce qu'il vaut mieux vivre pour manger ou manger pour vivre ? C'est une des répliques de l'avare, c'est admirable. Après, vous me parlez des rôles de femmes. J'ai envie de dire le début de d'Armande. Quoi ? La pièce commence par quoi ? Et le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur. Et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessin vous peut monter en tête. Et elle a en face d'elle... Oui, ma sœur. Et c'est terrible parce que ce bon sens est impossible à combattre. Et le quoi de Armande, qui est le début de la pièce, pour moi, me bouleverse. Parce que commencer, surtout en alexandrin, à aborder sa sœur sur un sujet intime qui la bouleverse, qui la fâche, qui la contrarie, par un quoi, c'est se montrer démuni au plus haut point. C'est être dans la nudité et c'est magnifique. Alors j'ai envie de dire, oui, on peut faire ça, je peux faire ça sur toute l'œuvre de Molière. Elle est sensuelle. Elle raconte le cœur des gens, des personnages.
C'est ça qui touche le public ?
C'est pour ça que ça continue à nous plaire. C'est pour ça que ça continue à nous faire rire. J'ai d'ailleurs une anecdote, je trouve extraordinaire. Quand j'étais à la Comédie française, on est allé jouer Le Malade Imaginaire en Chine. Et c'était un grand événement, ça avait été compliqué de mettre sur pied cette tournée. Et toute la dimension scatologique qui fait tellement rire en France et en Europe ne faisait pas rire du tout les Chinois. En revanche, et donc ça nous déstabilisait complètement sur le plateau. En revanche, tout le rapport entre la fille et le père, la domination du père sur la fille, le pouvoir paternel, faisait hurler de rire les Chinois. Et là, je me disais, quand même, ce Molière, il est extraordinaire d'avoir réussi à mettre en scène voilà, des sujets qui, nous, qui d'un côté ou de l'autre de la planète, nous parlent. C'est extraordinaire. Alors, c'est sûr qu'en Europe, on était plus sur le poumon, vous dis-je, et le pipi d'argan. Et de l'autre côté de la planète, on était sur « vous devez m'obéir ». C'est extraordinaire.
Est-ce que vous sentez le chef de troupe dans cette écriture, dans la façon de mettre en scène aussi ?
Il y a incontestablement une grande complicité entre les acteurs qui devaient interpréter et pour lesquels il écrivait, Molière. Il y a d'ailleurs, on parlait en amont de la Comédie Française, il y a le nom de Molière gravé dans le mur à la Comédie Française. Et moi, je suis la 477e sociétaire. Et ça m'a toujours émue de penser que, même si lui n'a pas connu la Comédie Française, on lui doit cette construction, cette institution, puisque Louis XIV l'a créée en son honneur, d'une certaine façon. Et si on s'assoit à 477, on ne remplit pas du tout la salle de Richelieu. C'est inouï de penser ça. Donc, en fait, tu as l'impression que l'histoire te tend la main. Et pour répondre à votre question, oui, on a l'impression qu'il écrit pour des complicités. Et que même il y a certains arias dont il a hérité de la Commedia dell'arte, de laisser certains personnages, certains de ses camarades se déployer sur certains sujets. On sent que certains rôles, il les a gonflés pour l'un ou pour l'autre. Et que donc il écrivait pour une complicité. Et c'est pour ça qu'à la Comédie Française, on joue si bien Molière, parce qu'il faut une complicité entre les acteurs pour le rendre. Il y a comme une fraternité dans ces pièces, même si, surtout si on se fâche. Parce que se fâcher en amitié, c'est plus violent qu'en amour, d'une certaine façon, puisqu'il n'y a pas le désir en jeu. Et donc l'amitié est très importante, et on sent qu'il a mis sur scène cette amitié. On le sent par exemple dans Le Frère, avec Argan, son nom m'échappe, mais le frère qui vient lui dire « mais tu n'es pas malade, réveille-toi ». Il faut beaucoup d'amour pour mettre ça en scène. Et on sent qu'il l'a écrit pour ses copains.
Il y a donc cet esprit de famille, mais est-ce qu'en même temps, cette figure tutélaire est parfois peut-être embarrassante ?
Elle est impressionnante. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles moi, j'ai jamais osé encore le mettre en scène. Et pourtant, je suis plutôt un metteur en scène classique, disons. Elle est embarrassante. Peut-être parce qu'il est difficile de faire ce qu'on veut avec Molière. Pourquoi ? Parce que couper des passages pour le rendre plus rapide, plus accessible, il manque le cœur de la pièce. C'est difficile. Parce que c'est l'image absolue du grand acteur, chef de troupe, metteur en scène et... Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec cette œuvre. D'une certaine façon, l'œuvre exigeante, admirable de Racine est plus facile à emporter ailleurs. Chez Molière, ça parle de l'humain. Alors, si tu ne peux pas parler d'autre chose. Le cœur est plus fort que la forme. Et donc, tu es obligé d'aller au cœur. Alors, il y a certains rapports qui ont vieilli, c'est sûr. Notamment, d'ailleurs, la présence paternelle dont je parle, hein, qui est très forte et qui a beaucoup changé au XXIe siècle. Mais est-ce que la liberté est plus grande ? C'est pas sûr. Et la bataille des femmes pour acquérir de l'autonomie, elle est toujours présente aujourd'hui. Hein. C'est un sujet majeur, en tout cas dans la culture. Donc, même si elle ne se formule pas de la même manière, elle est toujours incroyablement d'actualité. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec Molière, c'est sûr.
Et aujourd'hui, qui sont les nouveaux mondains, les nouveaux dévots ?
Il y en a partout. Il y en a surtout à Paris. La mainmise parisienne sur la culture est terrible. On sent que... Et moi, je dis ça, d'autant, je l'éprouve d'autant plus que maintenant, je suis à Nice, mais on a l'impression qu'il n'y a que les élus à la mode, et pour des raisons valables, intéressantes d'ailleurs, qui comptent. Alors qu'en fait, surtout dans les métiers du spectacle vivant... Moi, je viens de la troupe de la Comédie Française et ça n'est pas la personnalité d'un acteur qui compte, c'est le spectacle. Et on sent aujourd'hui que les mondains sont ceux qui comptent à Paris, dans les salons parisiens. Peut-être de moins en moins parce que la culture intéresse de moins en moins et qu'on en parle de moins en moins. Et qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus grave la situation. Mais les mondains sont quand même ceux dont on parle dans les journaux, qui sont toujours les mêmes. Hein. Et puis les modes passent, et puis les mondains changent. Et les mondains sont les courtisans en politique. On voit bien que ça fonctionne toujours quand même.
Molière a de multiples facettes qui parlent aux différentes époques, vous l'avez dit, aux différents pays selon les cas. En 2022, quelles sont peut-être les facettes de Molière qui ont le plus... De pertinence, d'acuité aujourd'hui pour le public?
Je pense que le bourgeois gentilhomme est une figure fondamentale. L'envie de devenir quelqu'un d'autre, l'envie d'accéder à autre chose, d'essayer de casser la barrière clanique dans laquelle on est enfermé. Et puis les grandes figures universelles. On a le Don Juan qui n'a rien à voir avec le Casanova, le misanthrope qui cherche autre chose. Après cette pandémie, on assiste à beaucoup de mus, de misanthropes qui ne veulent plus se confronter à la même société. Je crois que c'est ça qui rend Molière infatigable et génial, parce que il y a l'avare, ok, il y a le Tartuffe, mais ces grandes figures, on ne les a pas ailleurs dans la littérature. On peut dire que la littérature russe nous a donné Oblomov. Voilà une figure qu'on n'a pas. On peut dire que, là, moi, je viens de mettre en scène Goldoni avec la figure du jaloux. Ça, ce sont des figures qu'on n'a pas. Mais de la même façon, Molière nous a offert tant de figures universelles qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et ça, c'est indémodable. Tant qu'il y aura des humains, je crois.
C'est intéressant parce que quand vous parlez, le mot cœur revient très souvent quand vous parlez de Molière, alors que peut-être spontanément, nous penserions au rire. Pour vous, c'est d'abord le cœur, Molière?
Oui, parce que c'est pas un auteur qui fait le malin. C'est un auteur qui parle vraiment, qui a risqué très très fort, très très loin sa vie, pour défendre ses idées, pour défendre l'humain. Et donc, il faut beaucoup aimer pour faire ça. Il faut beaucoup aimer pour écrire pour ses copains, pour emmener une troupe, parce que tu n'échappes pas à la jalousie, à la critique. Et je pense que ce qui rend si important cette figure de Molière, c'est qu'il a écrit sur l'aspiration... des hommes à de et sur les défauts des hommes, des humains, sur la beauté de la vie, sur la beauté de nos défauts et de nos fragilités. Quand même, c'est un homme qui a écrit Le malade imaginaire avant de mourir et qui a écrit sa peur de la mort et en faisant un grand bras d'honneur à la médecine. Il a mis tout son sang dans ces lignes. C'est pas du tout un intellectuel, Molière. C'est un humain qui aime parce qu'il regarde les autres. Et alors il y a le rire évidemment là-dedans, le rire qui t'évite de pleurer, le rire du peuple, le rire qui lutte contre la bêtise. Le rire de Nicole est admirable quand même, quand elle regarde le bourgeois gentilhomme essayer désespérément une transformation. C'est une façon de l'aimer, de rire. C'est pas du tout un rire méchant, hein. C'est une façon d'être au monde Et je pense qu'il faut beaucoup d'amour pour ça. En tout cas, moi qui vieillis, je le ressens de plus en plus. Et c'est pour ça que peut-être maintenant j'oserais aborder ces textes comme metteur en scène. Parce que j'en comprends, j'en mesure l'humanité.
Et vous commenceriez par lequel ?
J'aimerais beaucoup là, mettre en scène le misanthrope, parce que je pense qu'il raconte beaucoup la volonté d'autre chose et que c'est incroyablement d'actualité. Mais sa violence et sa volonté de départ et d'isolement, elle est liée parce qu'il n'a pas, c'est parce qu'il n'a pas de solution. Et la revendication de Célimène de vouloir de la légèreté, de vouloir vivre et aussi de critiquer. Je la retrouve dans les figures des jeunes femmes aujourd'hui. Donc par exemple cette pièce-là, sinon une comédie, sinon je ferai avec la troupe au TNN, je ferai le Scapin. Et il faut redonner, il a donné la voix au peuple aussi et ça c'est magnifique. Il a mis sur le plateau des classes différentes qui se bataillent l'une l'autre. Quand on voit dans Les Femmes Savantes le père défendre la bonne, alors que sa femme essaye de défendre la poésie, ce sont deux mondes qui s'affrontent. Et ce qui est merveilleux, c'est que personne n'a raison, personne n'a tort. Mais chacun aspire au bonheur.
Pour finir, qu'est-ce que vous lui souhaitez à Molière pour ses 400 ans ?
Alors, depuis longtemps, je souhaite qu'il soit au Panthéon. Alors, vraiment, je pense que ça le ferait rire parce qu'il est loin d'avoir besoin de médailles. Mais parce qu'il faut qu'on revendique un des plus grands personnages, un des plus grands auteurs de notre littérature. Molière, il est connu dans le monde entier. Il parle à tout le monde. Et quand je vous racontais cette tournée en Chine, je vous assure, c'était extraordinaire de voir à quel point on est allé jouer. Je suis allée jouer au Japon, le bourgeois gentilhomme. Et ça marche. Donc, ça parle au monde entier. Alors, ce serait juste de faire ça. C'est symbolique. Et Dieu sait que j'aimerais qu'il y ait d'autres femmes au Panthéon. Mais Molière le mérite incroyablement.
Eh bien, un grand merci Muriel Mayette. Nous fêtons donc ce 15 janvier les 400 ans de la naissance de Molière. À bientôt.
Merci à vous. Thank you.